Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour Marine.
Bonjour Vincent.
Comment vas-tu?
Ça va, même si on fait studio à part, mais
effectivement,
ça va très bien.
Aujourd'hui, nous sommes exceptionnellement séparés par une vitre, puisque nous n'avons plus de technicien. Voilà, il est en vacances, Bruno, on le salue. Et ça n'empêchera pas Cinérama de se dérouler, tout simplement. On a prévu un sommaire, comme chaque mercredi, on s'y attache. Alors, de quoi tu vas parler aujourd'hui?
Alors, moi, je vais vous parler de We Need to Talk About Kevin, de Crazy Horse. Et je vais continuer sur ma lancée au sujet des titres de films qui sont modifiés par les distributeurs français. Et je vais...
Puis après, tu t'attaqueras au titre de film africain, j'imagine.
Bien
et
sûr.
L'Amérique du Sud, enfin, de toute façon.
Je ne vais pas m'arrêter.
On a 5 continents pour ça. Sinon, moi, je vais vous parler de Skylab, de Deux Bons Matins. Et puis aussi, on va écouter la première partie d'une interview de Mai Wen et de Karine Viard, qui sont. Mai Wen, c'est la réalisatrice du film Police, qui sort la semaine prochaine. Et puis Karine Viard joue dedans. Voilà, c'est une petite interview qu'on va vous faire écouter. Ce sera la première partie. Et on écoutera la seconde partie et je vous parlerai plus longuement du film la semaine prochaine au moment de sa sortie. Mais tout de suite, on va donc commencer par le Skylab. Alors, le Skylab est le 5e film de Julie Delpy en tant que réalisatrice. Elle a commencé à endosser le rôle de metteur en scène en 2002 avec Looking for Jimmy. C'est avec Two Days in Paris sorti il y a 4 ans que l'actrice a vraiment rencontré son public. Une comédie donc finement menée mettant en scène un couple franco-américain en visite à Paris sur fond de questionnements amoureux. C'est un regard acide et drôle sur la France, hein, vu par Julie Delpy qui a vécu quelque temps aux États-Unis. En 2010, elle se laissera aller au film costumé avec La Comtesse, un portrait de la comtesse Bathory qui, selon la légende, aurait assassiné 600 jeunes filles, je crois vierges, hein, pour se baigner dans leur sang afin d'accéder à la jeunesse éternelle. Une réussite, hein, que ce film n'est pas une comédie. Avec le Skylab, Julie Delpy renoue donc avec la légèreté. Nous sommes dans un train, un Eurostar pour être précis, avec une petite famille. Puis très vite, nous allons en Bretagne où une famille se réunit pour l'anniversaire de la mère, interprétée par Bernadette Lafont. Alors les Parisiens arrivent après 6 heures de train, voire en 2 chevaux, les Bretons sont déjà sur place. Tout le monde a des pantalons pas de def ou des lunettes gigantesques. Il a dû se passer quelque chose. Un gros flashback en fait nous a plongé en 1979 durant le week-end où le Skylab, la première station américaine, doit se désintégrer sur Terre. Et dans l'ouest de la France, pense-t-on, c'est ce qu'on raconte en tout cas dans le journal et aux actualités parlées. Comme on dit à l'époque. Finalement, ce sera en Australie qu'il va s'écraser ce Skylab, mais peu importe. Si nous sommes dans un flashback, c'est qu'Albertine, fille du couple d'artistes de gauche que sont Eric Elmosnino et Julie Delpy, nous y a envoyé. On fait connaissance avec toute la famille, les nombreux frères et sœurs d'Eric Elmosnino, les enfants, la mère et l'oncle Hubert. Et c'est donc parti pour 24 heures dans la vie d'une famille qui rit, s'aime, se chahute, s'engueule et se réconcilie.
Pas mal au même.
Allez, Parigo! Alors, vous avez fait bon voyage?
Lâchage de fauve.
Non, non, oh, oh, doucement, les asticots, là!
Couille, Mike, couille, Mike, couille, Mike!
Oh, j'en ai marre qu'on me foutait à table des mioches à 17 ans.
Peut-être que demain, on sera tous morts.
Pourquoi?
À cause du Skylab, un satellite qui va tomber cette nuit, c'est super dangereux.
Merde, on est sur la plage des nudistes. Bonjour.
En tout cas, Titine est muette depuis qu'elle a vu le zizi de Mathieu. Elle a même failli lui attraper le kiki à la place de la main.
Bonjour. Pardon.
C'était bien sympa cette petite sauterie avec les deux pupus.
Va réveiller tonton Hubert.
Merde,
Il va se pendre.
Je sais bien que tu l'adores.
Bambino, bambino.
Et qu'elle a de jolis yeux.
Les dernières législatives ont été un échec pour la gauche, mais le PS a progressé.
Moi, je vous dis que c'est la gauche qui va passer aux prochaines élections.
La gauche ne passera pas, ou moi, je quitte le pays.
Mais quitte-le, le pays.
Arrêtez-moi.
Étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux.
Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux.
Bravo!
La balade des gens heureux.
Quelle grande famille vous avez.
Voilà, on a entendu quand même un petit aperçu hein, de la bande-son qui fait référence à des musiques que la génération des années 70 a bien connues. Alors, le Skylab est avant tout une comédie familiale. Julie Delpy a su orchestrer ses souvenirs d'enfance et poser ses personnages. Le couple d'artistes parisiens de gauche, le médecin facho ou quasi de droite, l'ancien para déglingué, l'immigré espagnol, les femmes même au fourneau, le fameux oncle Hubert qui n'est plus tout à fait étanche, tous ces enfants si différents, les très propres, les carrément dégueulasses, les grandes gueules, les timides, des scènes où ils s'amusent avec trois fois rien, se chamaillent avec les plus grands pour savoir qui aura le contrôle de la télévision. On croit à tout ce qu'on voit pour peu qu'on ait vécu de ces grands week-ends familiaux. Alors être dans les années 70 ajoute une touche de nostalgie dont Julie Delpy ne joue pas tant que ça, sauf que pour les prises de bec autour de la politique et la menace rouge socialiste de Mitterrand qui se profile à l'époque, eh bien ça fonctionne bien. Bien sûr, les costumes, les coiffures, les décors années 70 ajoutent la bonne touche kitsch qui favorise la légèreté. S'il n'y avait pas la qualité technique de notre époque, on se croirait vraiment regarder une comédie italienne des années 70. Alors contrairement à Potiche, le film de François Ozon, hein, qui se jouait aussi du kitsch et qui léchait son image, augmentant le contraste avec notre époque, mais en même temps nous y envoyant. Ici, Delpy a fait le choix d'une lumière qui épouse l'époque. Alors on sait que le rythme d'une comédie est capital, c'est peut-être là où Delpy manque un peu de vivacité, quelques plans s'étirent, mais on est tellement bien avec ce petit monde qu'on passe un très bon moment. Voilà, donc eh bien, ça passe au Gaumont, au Diagonal et au Cinémistral de Frontignan, le Skylab. Donc c'est le cinquième film de Julie Delpy. On y retrouve Julie Delpy, qui, bon, moi je trouve toujours super naturelle, j'adore. Eric Elsmosnino, alors lui, j'ai du mal carrément à dire son nom, il devrait changer pour me faciliter la vie. Et puis on retrouve Naomi Lovski, qui est une réalisatrice, mais qu'on voit apparaître de plus en plus souvent en fait dans les films, et notamment dans les comédies. Et à un moment dans le film, elle interprète une chanson de Dalida, c'est Bambino, et on va l'écouter.
La mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs,
bambino, bambino.
Tu as l'air d'un chérubin.
Bambino, bambino.
Va plutôt jouer au ballon,
bambino, bambino.
Comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. tête déhanchée sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman, les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin.
Alors Marine, d'après toi, on a perdu combien d'auditeurs là ? On peut le chiffrer ça ? Voilà, c'était donc eh bien, la grande Dalida avec Bambino. Donc c'est extrait de la bande originale du film Le Skylab. Alors j'aurais pu choisir aussi Gérard Lenormand. Enfin, tu as noté que je n'ai pas choisi Gérard Lenormand. Voilà. Ou alors
La peste ou le choléra en même temps.
Ou alors le Born to be Alive qu'on a l'habitude d'entendre sur d'autres radios. En revanche, allez, c'est la suite de Cinérama.
Oui, on va passer à un sujet un petit peu moins drôle, on va parler de We Need to Talk About Kevin. C'est en effet le genre de film dont on parle beaucoup après l'avoir vu, tant il nous questionne. Le problème étant qu'il est très difficile d'en parler d'une manière un tant soit peu approfondie sans en révéler la fin. J'ai donc décidé de vous dire directement comment tout cela se termine, afin de pouvoir chroniquer sans avoir à éluder, d'une part, et d'autre part pour la raison que je n'aime pas cette manière qu'a le film d'utiliser un compte à rebours malsain, à l'aide de flashbacks, étant donné que ce procédé, maintes fois revu, joue sur le voyeurisme intrinsèque au spectateur et qu'il est indigne d'une œuvre aussi intelligente. Donc si vous ne voulez pas savoir comment le film se termine, vous pouvez aller fumer une cigarette. Quand elle sera consumée, ma chronique sera terminée. Le film soulève donc une interrogation jamais posée. De nombreuses tueries ont été perpétrées dans des lycées, aux États-Unis en particulier, et ce par des élèves. Mais qui sont les parents de ces adolescents ? Quel rôle ont-ils pu jouer dans leur basculement vers la folie ? Et comment vivent-ils par la suite ? Eva est la mère de Kevin, un bébé déjà très difficile à vivre, qui va muter en enfant machiavélique, puis en adolescent psychopathe. On la rencontre alors qu'il est déjà en prison et qu'elle tente de reconstruire sa vie, après que son fils ait assassiné froidement de nombreux lycéens. Kevin est un enfant maléfique, comme on en a souvent croisé au cinéma, dans Le Village des damnés, ou plus récemment dans les films Esther, Dorothy ou Insidious, sauf qu'il est ici remis au goût du jour, sans malédiction ni exorciste, mais avec internet et jeux vidéo. La réalisatrice Lynn Ramsey ose faire la critique d'un sujet intouchable, l'amour maternel, sans empathie ni morale aucune, en salissant l'image iconique de la mère aimante. Elle s'attarde davantage sur la personnalité de Eva que sur celle de Kevin, jusqu'à en faire un personnage plus complexe que son pervers de fils, interrogeant les normes sociales de la famille et la cruauté de l'humanité sans pour autant tirer de conclusions. Si le fond est subtilement réalisé, eh bien la forme est parfois un peu grossière, quoique recherchée, l'utilisation des couleurs avec une redondance du rouge, tomate, confiture, peinture et finalement hémoglobine, ne fait pas dans la finesse et ajoute à la maladresse très démonstrative du film, qui joue sur des symboles visuels beaucoup trop évidents pour avoir une réelle portée artistique. Il n'en reste pas moins que les acteurs, et en particulier Tilda Swinton, donnent une vraie profondeur à l'histoire et rendent le film aussi captivant que monstrueux. Donc je vous le conseille quand même, et c'est toujours au Diagonal.
Et c'est en version originale sous-titrée, bien évidemment. Allez, on va maintenant entendre une interview, voilà, puisqu'on a décidé hein, dans cette nouvelle saison de Cinérama eh bien de faire une grande place aux interviews et puis aux invités. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'invité, mais on en aura la semaine prochaine. Donc première interview, elle concerne eh bien le film Police, Police qui va sortir la semaine prochaine. C'est le film de Mai Wen qui a gagné donc un prix à Cannes. C'était lequel déjà, Marine? Le prix du jury.
Le prix, voilà, du jury.
Donc le lot de consolation un peu, hein, on peut le dire comme ça, hein, enfin de Cannes.
Oh oui, quand même, ça veut dire que ça a fait l'unanimité plus ou moins.
Voilà, oui. Donc, c'est Mai Wen donc, qui bien, a fait un petit stage à la police des mœurs et la brigade des mineurs, pardon, à Paris. Et puis, qui au bout d'un moment s'est dit, bah oui, c'est bon, je peux faire un film autour de cette brigade des mineurs. Donc, elle a pris de bons acteurs et donc, elle en a fait un film plutôt bien réussi. Alors, c'est entre le documentaire un peu réaliste et puis la fiction, évidemment, parce qu'il y a une dose de fiction. Elle y a mis son Joestar, hein, puisqu'elle était amoureuse de Joestar. Elle l'est peut-être encore, mais ils ne sont plus ensemble, c'est ce que j'ai compris. Et en tout cas, elle l'a bien mis en avant dans la mise en scène. Mais c'est surtout, avant tout, donc, eh bien, un film un peu punchy qui va débarquer sur les écrans la semaine prochaine. On écoute ce qu'ils en disent.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Brigade des mineurs.
Avant d'écrire, j'ai été à la brigade des mineurs pour savoir si j'avais de la matière pour écrire.
Donc c'est bien. Allez.
Non, mais j'étais pas comme dans le film, c'est la perfectionnelle.
En fait, moi j'ai eu Mai Wen après le bal des actrices. Le bal des actrices avait duré très longtemps. Elle me dit maintenant je vais faire un film différent, loin de moi, pas un film autobiographique. Je vais aller là où c'est le plus loin de moi, je vais aller... faire un film sur la police avec que des garçons. Et finalement, c'est comme ça qu'est arrivée Police. Elle a rajouté des filles. Et ça a été la BPM. Mais au début, c'était l'image, c'était l'envie de t'éloigner complètement de...
Oui, j'avais envie de prendre un sujet qui me faisait peur.
Il vient dans quelle pièce?
Dans ma chambre.
Le scénario, déjà, il avait cette chose qu'on retrouve dans le film, je trouve, c'est que tu sais pas par où ça procède, mais tu veux les voir. Il y a ça dans le film. Le film, il pourrait... Enfin, moi, quand le film s'est terminé, je trouvais qu'il était vraiment saisissant, mais il aurait pu durer encore 3 heures. J'avais encore envie de les voir vivre, savoir ce qui se passe pour eux, et 2 ans après, 3 ans après, qui est devenu ce gosse, et comment ils sortent de ça. Et dans le scénario, il y avait déjà ça. Et ça agissait de façon très étrange. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas lu que mon personnage. Parfois, quand on lit un scénario, y a l'histoire et puis il y a le personnage qu'on vous confie. Là, à l'évidence, c'était ce groupe. Ce groupe existait avec une force et une évidence qui est celle du film. Et c'était très, très fort.
Voilà, je vous présente Mélissa Zaya, photographe. Donc, je compte sur vous pour qu'elle se sente à l'aise.
Je vais peut-être pas vous faire tout de suite du viol ou du pédo.
Soit tu nous dis qu'il t'exploite, soit tu dis rien. Puis dans un an, comme t'es plutôt mignonne, il te fout sur le trottoir, tu fais la pute.
Fais gaffe.
Changement de programme, tout le monde part. Une mère a enlevé son bébé.
Bah, où la troisième caisse?
J'ai 8 gus. On doit couvrir Belleville, on a 2 bagnoles.
Moi, j'ai fait un stage à la police, mais eux, ils ont fait une semaine de stage intensif, encadré par 2 policiers de la brigade des mineurs. Et c'était 8 heures par jour, vraiment comme à l'école. Et c'était juste avant de commencer le tournage.
On est quand même tous, là, les 10, des personnalités globalement assez fortes et tous très différents, avec des univers assez différents. Et cette cohésion, elle vient forcément de Mai Wen. C'est-à-dire qu'on a fait effectivement ce stage qui était vraiment très important, et on s'en est rendu compte quand on le faisait. C'est-à-dire qu'on a un langage commun, on n'a pas une histoire commune vis-à-vis de ça, parce que par exemple, Joestar, il connaît déjà la police, il connaissait vachement plus de trucs que nous pour les avoir fréquentés d'une certaine façon. Mais finalement, on a eu tous comme ça une espèce de langage commun. Mais après, la cohésion et ce qui s'est passé, c'est Mai Wen. Et c'est aussi son talent de nous avoir choisis, Parce que nous, les 10, ce qui s'est passé entre nous était super fort. Et que chacun a trouvé sa place, les uns par rapport aux autres. Et que parfois, Maïwenn elle-même, elle était, comment dire...
Pas éjectée,
mais comme elle était metteur en scène et qu'elle était chef d'orchestre, parfois, on oubliait de l'intégrer dans cette brigade. Et donc, à un moment donné, c'est le film dans le film. C'est-à-dire qu'on était les 10, que parfois, Maïwenn, elle souffrait de ne pas être au milieu de nous et que nous, on ne réalisait pas qu'elle avait besoin d'être au milieu de nous,
souffrir, c'est pas...
Non, pas souffrir, mais tu vois ce que je veux dire.
On ne peut pas se permettre sur un plateau... Il faut choisir son camp à un moment donné. Ouais, il faut choisir. C'est que j'étais du côté des techniciens parce que tout simplement, nous, on fabriquait le film et que les comédiens, ils se retrouvent entre eux parce qu'ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Mais ça ne m'a pas dérangée.
Tu crois que je ne te vois pas surfer sur Facebook?
C'est ma chef?
Non, mais...
C'est à toi que je dois rendre des comptes?
Madame s'exprime.
Tu viens pas sur ce terrain-là à me dire ce que je dois faire parce que tu me
comprends? Moi, j'avais jamais eu à exprimer ça dans les films, mais heureusement assez rarement, mais j'ai une grande capacité. Je peux être très en colère, moi, depuis que je suis petite.
J'ai jamais vu Karine s'énerver comme ça dans la vie.
Jamais. Mais ça m'est arrivé, je crois, 2 ou 3 fois dans ma vie, quoi. Mais dans toute ma vie, je suis plus si jeune non plus. Et donc, c'était écrit et tout ça. Je me suis dit, j'ai commencé. Et c'était pas bien. J'avais la voix comme ça. Mais parce que voilà. Et puis Maïwenn, mais parce que c'est comme elle travaille. C'est... Elle dit, la voix, elle est pas comme ça. On recommence, ça va pas et tout ça. Ça me permettait de me chauffer un peu comme ça. Et puis, il y a un moment où, voilà. Et puis, elle m'a dit une chose qui m'a vraiment libérée. C'est qu'elle m'a dit, retourne-y. Tu t'es fait comme ça. Et puis elle dit retourne-y, retourne-y encore. Et à un moment donné, et le retourne-y, je peux pas vous dire, c'était vraiment le sésame ouvre-toi de ça. C'est-à-dire que elle y va en plusieurs fois et ça monte comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es possédé et tu le fais là où il n'y a pas du tout de manipulation de la part de Maïwenn. C'est que pour ma part, tu te jettes dedans avec un plaisir. Le plaisir de sortir ce truc qui est vraiment la raison primaire, fondamentale, pourquoi tu veux être acteur. C'est pour exprimer des trucs que t'as pas le droit de dire, t'as pas le droit de dire des horreurs, t'as pas le droit de taper, t'as pas le droit de faire des crises de colère comme ça. Il y a plein de choses que t'as pas le droit. Et le cinéma légitime, tout ça. Et avec Maïwenn, on est vraiment en plein dedans. Et donc je l'ai fait, à la fois j'avais le sang qui faisait comme ça, j'étais là comme ça, je m'étais coupé les mains et tout ça. Mais c'était la raison pour laquelle je voulais être actrice. et ça c'est chouette.
Est-ce que il va en prison à cause de moi?
Non, il va en prison à cause de ce qu'il a fait. Et nous, on intervient pour les punir.
J'ai déjà tourné avec des enfants où on voit souvent des films avec des enfants où les enfants sont des très jolis pantins, très mignons, etc. Et que Maïwenn, il y a quelque chose chez elle qui est vraiment sa facture et son cinéma, c'est qu'il y a une relation à l'autre qui est très directe. Et les enfants, ils sont très sensibles à ça. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il n'y a pas des trucs cachés sous le tapis, qu'on ne va pas... Justement, elle parle de manipulation. Il n'y a aucune manipulation. Maïwenn, elle est en face. Il n'y a pas. Les gosses, ils savent très bien qu'ils jouent dans un film, que c'est pour de faux. Elle ne va pas en faire des caisses. Elle ne va pas leur dire alors, gna gna gna. Elle leur parle super directement. Et les gosses, ils aiment ça. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire et ils le font avec plaisir. Et moi, je me suis retrouvée dans ce film-là, en face de gosses avec qui j'avais des trucs à faire. J'ai pas. Comment dire. Tu joues avec eux, on était à égalité, il y avait un truc de simplicité qui est vraiment amené par Maïwenn. Et moi je déteste quand je joue dans des films avec les gosses et où je vois les metteurs en scène qui en font des caisses, qui sont là, c'est cute. Ça me met hyper mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'on les respecte pas en fait. Et Maïwenn, elle parle de ce film et tous les enfants qui sont dans le film, elle les a profondément respectés, c'est-à-dire qu'elle les a considérés pour ce qu'ils étaient et pour la qualité de ce qu'ils allaient donner. Adolescents, enfants, on était tous traités pareil. Et ça, c'est les gosses, ils le sentent. Et il n'y a pas de... Ils ne confondent pas hein, la réalité et ce qu'ils ont à jouer.
Les enfants, il ne faut pas leur mentir. Souvent, un enfant, quand il va chez le médecin, il demande est-ce que ça va faire mal. Et il se sent beaucoup plus rassuré quand on lui dit oui, ça va faire mal 2 minutes, mais après tu penseras à autre chose. Alors qu'un enfant à qui non, t'auras pas mal et tout, puis qui au moment de la piqûre, il se dit ouais. Mais en fait, on m'a menti, en fait, ça fait vraiment mal.
Il a fait quoi, ton papa ?
M'a gratté les fesses.
Ouais. Ouais, tu pourrais demander aussi si t'es en dessous ou au-dessus du pyjama.
Ok.
Ça a été le combat le plus difficile à mener depuis le départ. La première version du scénario, il y avait des plans plus crus, plus durs. Il y avait des dialogues aussi plus explicites. Plus explicites, non pas parce que je voulais choquer, loin de là, mais parce que c'était la réalité. À la police, les policiers demandent aux enfants, même si c'est pénible, des mots très clairs. Zézette, est-ce que c'est pour toi c'est devant, est-ce que c'est derrière, et combien de temps il l'a fait, combien de fois, c'était le jour, c'était la nuit. Enfin, ils sont obligés de rentrer dans les détails. Donc moi, ça faisait partie de mes dialogues, forcément. J'ai pas essayé de faire des scènes ostentatoires pour choquer, tiens, les enfants qui se montrent comme ça, qui disent ça. C'était pas du tout mon but. Je voulais que ça colle à la réalité. Mais toujours est-il que la DAS trouvait ce projet infaisable avec les enfants. Donc j'ai remis, je sais pas, 2, 3, 4 versions différentes. Et au bout de la 4e version, la DAS a fini par me donner son accord. Mais avant qu'elle me donne son accord, comme au début c'était non catégorique, en refusant totalement de discuter, je me suis pointée là-bas un jour sans prévenir que j'allais venir. J'ai cherché à les voir pour qu'ils me voient physiquement, pour qu'ils m'entendent, pour que je leur dise que j'étais maman, pour leur dire que j'avais joué en tant qu'enfant, que je comprenais leur interrogation. Et puis je ne peux pas dire que ce rendez-vous a fondamentalement changé, mais j'imagine comme un petit peu, parce que plusieurs mois après, ils ont fini par accepter un scénario. Je leur ai remis un découpage avec des dessins, plan par plan. Donc c'était vraiment très sérieux. Mais je trouve ça super qu'en France, on ait cette loi-là. Je sais qu'en Belgique, ils ne l'ont pas. Je crois que c'est le pays d'Europe le plus surveillé pour faire tourner les enfants. Et je trouve ça super. Mais leur argument me déstabilisait, car ils disaient un enfant qui tourne dans un film d'horreur et qui se fait décapiter à la tronçonneuse, ça n'aura aucune conséquence, ni même s'il voit son papa ou sa maman se faire fusiller, ça n'aura aucune conséquence dans sa vie future. En revanche, un enfant qui raconte qu'il s'est fait violer, oui, ça a des conséquences. Alors, j'avais du mal à comprendre ça, à les prendre au sérieux, franchement. Mais je me suis dit tant pis, il faut que je joue le jeu, car sinon je ferai pas mon film, donc je préfère quand même faire mon film. Donc ils m'ont fait signer un papier comme quoi je m'engageais officiellement à ne tourner que ce que j'avais donné dans le scénario, le storyboard, etc. Et puis mon entourage qui me connaissent, qui savent que je n'aime pas les contraintes, j'aime pas les obligations, de rendre des comptes et tout ça, ils m'ont demandé si j'allais vraiment suivre mes engagements. Et je me suis surprise pour la première fois de ma vie à me dire ben oui, je vais tenir mes engagements, parce que même si je n'étais pas d'accord avec l'exemple qu'ils donnaient entre les films d'horreur et mon scénario, je me suis dit imaginons par le plus grand des hasards que je découvre qu'ils ont eu raison et que j'ai débordé, que j'ai fait dire à un enfant un mot en plus, un plan en plus, et que j'apprends que l'enfant 6 mois après le tournage il est en échec scolaire, il s'est renfermé, etc. On peut pas se permettre pour un film de mettre en péril la santé émotionnelle d'un enfant. Donc je me suis dit non, je ferai vraiment tout ce qu'il me demande de faire. Et puis en fait, j'ai trouvé que ça m'avait rendu service, car en me privant des plans chocs et des phrases et des mots chocs, j'ai fait appel à l'imaginaire des spectateurs. Et l'imaginaire en fait est beaucoup plus fort dans un cerveau que de voir.
Poussez-vous !
Il était à l'école aujourd'hui ?
Mais notre boulot, c'est de protéger votre fille si vous faites du mal, monsieur, vous comprenez ?
Elle raconte.
C'est à la police ici ! Ferme-la, ta gueule !
Et voilà, on entend donc Joey Starr. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, c'était une rencontre avec Mai Wen et Karine Viard qui étaient présentes. Je pense que vous avez entendu, reconnu sa voix. Et dans cette brigade des mineurs, il y a aussi Marina Foïs. On a entendu, en revanche, bien sa voix dans les extraits de bande-annonce. Il y a aussi Nicolas Duvauchel. Et puis, il y a Emmanuelle Berco, qui est plus connue, elle, pour être une réalisatrice, mais qui a collaboré aussi au scénario. Et puis, il y a Jérémy El-Kaïm. Ça te dit sans doute quelque chose.
Oui.
Marine.
La guerre est déclarée.
La guerre est déclarée, puisque c'est le co-réalisateur et puis aussi le comédien hein, dans ce film. Voilà, qui joue un rôle de stagiaire qui est là et qui s'en sort d'ailleurs très très bien. Mais de toute façon, ça a été très très bien dirigé ce film et le résultat est vraiment impressionnant. Donc c'est Police, ça sort la semaine prochaine et on écoutera eh bien, la deuxième partie de cette rencontre avec la réalisatrice et Karine Viard la semaine prochaine. On fait une pause musicale et tu vas devoir expliquer de quoi il s'agit.
Alors c'est a priori l'une des musiques de la bande originale du film 28 jours plus tard.
Ah, là, ce serait plutôt Kavinsky.
Non, c'est raté.
En fait.
Ah, c'est pas grave.
Rembobiner, s'il vous
plaît. Eh bien, on recommence. Non, c'est un extrait de la bande originale du film Drive.
Qui est sorti la semaine dernière. extrait donc de la bande originale du film Drive sorti sur les écrans la semaine dernière, qui est comme Police un des gagnants de ce Cannes cru 2011.
Un film de qui déjà?
Alors c'est Nicolas d'ailleurs.
Nicolas
Winding
Refn.
Refn, voilà, qui est danois. Et un excellent film en tout cas, voilà, qu'on vous a déjà recommandé la semaine dernière.
Cinérama sur Divergence FM.
Oui, donc on va enchaîner maintenant, on va poursuivre sur notre thème des changements de titres de films. Et je vous propose de nous pencher cette semaine sur les titres de films asiatiques. Alors il faut déjà savoir que les films asiatiques, qu'ils soient japonais, coréens ou chinois, ne sortent bien souvent de chez eux que pour atterrir sur les écrans français, exception culturelle oblige. Les traductions de titres sont donc le fait des distributeurs de l'Hexagone qui prennent l'entière responsabilité de cette exportation. S'il est bien sûr impossible de laisser les titres asiatiques comme tels, la manière de traduire a étrangement évolué. Dans les premiers temps du cinéma asiatique, les réalisateurs voyaient leurs films affublés de noms ô combien poétiques, tels que « Les contes de la lune vague » de Ozu, « Les hommes qui marchent sur la queue du tigre » de Kurosawa, « Histoire écrite par l'eau » de Yoshida, sans oublier le plus célèbre « L'Empire des sens » de Oshima. Mais suite à ce premier âge d'or, le cinéma asiatique est revenu dans les années 80 sous une forme bien différente. Fini les titres en forme de haïku, à présent, soit l'on se contente de mettre un seul mot en guise de titre, comme un idéogramme, soit on opte pour un titre en anglais, malgré le fait que transposer un titre asiatique en anglais pour un public français soit dépourvu de toute logique. Dans le premier cas, Kim Ki-duk remporte la palme de la sobriété avec des titres tels que L'Arc, L'île, Souffle ou bien sûr Locataire, il en a fait des dizaines comme ça. Dans le second cas, les exemples sont Légion, puisque la majorité des films asiatiques sortent sous un titre anglais. La trilogie de la Vengeance de Park Chan-wook en est un exemple éloquent avec Sympathy for Mr. Vengeance, All Boy et Lady Vengeance. Côté japonais, on peut citer bien sûr Battle Royale et les Chinois ne sont pas en reste avec par exemple le dernier anglais qui était rebaptisé Lust Caution. La raison est bien évidemment commerciale, mais l'on peut s'interroger sur les origines du mal. Certes, avec la mondialisation galopante, les supports de communication s'appuient tous sur l'anglais pour l'impression de modernité que cette langue apporte, mais le cinéma asiatique doit peut-être cette récupération à l'industrie hongkongaise. Je m'explique. Hong Kong étant une partie de la Chine extrêmement américanisée, comme l'attestent les prénoms des réalisateurs ou des acteurs qui en sont originaires, qui associent très souvent un prénom américain à un nom de famille chinois comme Andy Lau, Tony Leung ou Maggie Cheung, a eu dans les années 80 un essor très important et s'est imposé au niveau international, notamment grâce à John Woo. Et cela a créé un regain d'intérêt pour le cinéma de l'Asie. Sortant aux USA et partout dans le monde dans des titres américains, les thrillers hongkongais tels que The Killer ou Broken Arrow vont familiariser le public aux thrillers asiatiques titrés en anglais. Les autres réalisateurs hongkongais qui profiteront de ce succès s'engouffreront ainsi dans la brèche, tels que Tui Hark, à qui l'on doit surtout Time and Tide, ou bien sûr Jackie Chan ou Wong Kar-wai, qui se fera surtout connaître grâce à des mélos comme In the Mood for Love. Rien d'étonnant donc à ce que par la suite les distributeurs aient conservé ces habitudes commerciales, même si les films ne sont pas distribués dans des pays anglophones la plupart du temps. Une exception tout de même, on notera que les films chinois, en particulier les films historiques qui jouent sur le folklore du pays, ont le droit d'avoir des titres en français, mais à condition d'y mettre des mots qui font directement penser à l'empire du milieu, comme la cité interdite de Zhang Yimou, Tigre et Dragon, bien sûr, de Ang Lee, ou Le secret des poignards volants.
Merci beaucoup, Marine. Donc, tu reviendras dans une prochaine chronique
oui.
Sur d'autres... Oui,
tout à fait. Tu crois que
pas fini. C'est relativement inépuisable.
Et tout à fait, exactement.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Eh bien, vous allez savoir tout de suite. C'est l'histoire d'un type proche de la cinquantaine, cadre dans une banque, qui arrive au boulot presque comme tous les matins, sauf qu'il a un flingue et qu'il a des cibles en tête. Alors voilà le synopsis en vision simplifiée du troisième long-métrage de Jean-Marc Moutou, après Violence des échanges en milieu tempéré en 2004 et La fabrique des sentiments en 2008. Alors autant dire que le réalisateur prend son temps pour peaufiner ses sujets. L'avantage avec Moutou, c'est qu'il veut, autant que faire se peut, tomber juste. Dans Violence des échanges en milieu tempéré, on suivait un jeune diplômé issu des classes tâche laborieuse forçait de faire un audit dans une PME dont les conséquences étaient inévitables, le chômage pour les moins productifs, les moins coopératifs. Moutou, dans ce sobre mais élégant long-métrage, traitait deux sujets, la valeur du travail, puisqu'il s'agissait de faire de cette entreprise en rachat un outil performant pour l'actionnaire, et puis un autre thème, c'était l'ascension sociale. Puisque le héros, malgré lui, de cette restructuration d'entreprise était un garçon issu des classes pauvres. En favorisant un monde qui donne raison aux actionnaires, il devient donc traître à sa classe. Mais dans le même temps, peut s'acheter une maison, un cabriolet et le reste. Violence des échanges en milieu tempéré situait donc son intrigue dans l'entreprise. Pour la fabrique des sentiments, il s'agissait plutôt d'une étude de mœurs et de regarder comment les gens s'aiment et se rencontrent à notre époque. C'était un poil poussif mais toujours instructif. Avec De Bon Matin, on retourne dans l'entreprise et on retrouve les restructurations déjà vues à l'œuvre dans son premier film. Mais ici, il s'agit bien d'un drame et Moutou se libère assez vite du fait divers dont il s'inspire pour ensuite décortiquer ce qui lie un homme à son travail et ce qui le pousse à dégommer deux de ses supérieurs. Cet homme est interprété par un excellent Jean-Pierre Darroussin.
Je me suis totalement investi dans mon métier. J'y ai mis le meilleur de moi-même. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, vous ne valez plus rien.
Bande de lâches ! Est-ce que vous vouliez, non ?
J'ai commencé en 83, dans une petite agence. C'était la grande époque pour les banques.
Ça te plaît, le droit ?
Ça va.
Toujours branché journalisme ?
Ouais.
T'as envie de quelque chose. C'est ça le plus important.
Le point crucial est de rassurer nos clients.
Concrètement, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'on a acheté des subprimes sans le savoir? Voilà, là on touche du vent. Et voilà, tu restes au 90.
Paul, je vois que tu tiens pas tes objectifs. Tu fais 10% de moins que la moyenne de tes collègues. Comment tu expliques ça?
On te propose le poste qui se libère.
C'est une plaisanterie.
Ça n'aura aucune incidence sur ton salaire. On n'a pas le droit.
Je croyais qu'il t'avait dans le nez, mais je me plantais. Hein.
Mais attends, faut pas croire ça, hein. C'est exactement ce que veut ce type. On va se battre ensemble.
Ça serait bien que tu demandes ta mutation.
Alors ça, jamais d'avis.
Pourtant, c'est la meilleure chose qui te reste à faire, hein, parce que vu où on est arrivé...
Ne parlez pas comme ça!
Écoute, maintenant, tu te casses et c'est bon, hein.
Je ne sais pas quand ça a commencé. Quand ça a dérapé.
Ce n'est donc pas spoiler que de raconter qu'il y aura deux morts, hein, voire plus, dans ce film. Le titre « De bon matin » fait référence précisément aux premières images où l'on voit Paul Vertrette qui se lave les dents, plutôt deux fois qu'une, et qui méthodiquement s'applique à faire des gestes quotidiens jusqu'au moment où l'on sent qu'il déroge à la règle. Ça couvre quelque chose et le Paul, eh bien, il va exploser. Ce qui est intéressant dans ce long métrage qui jette assez vite son sujet au visage du spectateur, ce sont les flashbacks qui vont survenir à mesure que Paul, une fois tué ses deux supérieurs hiérarchiques, s'enferme dans son bureau en attendant qu'on vienne l'y trouver. Une vie familiale, un bateau qui vogue sur le lac d'Annecy, une femme, un enfant, un étudiant malien quasi adopté, tout semblait rouler jusqu'à ce qu'au boulot on lui fasse comprendre qu'il n'est plus à sa place et que sa place est sans doute ailleurs, la porte ou peut-être un service où il serait moins encombrant mais garderait le même salaire puisqu'on ne peut pas faire autrement. Du cynisme, de la gestion d'entreprise et au diable l'humain, Paul a été un peu cela, sûr de lui, cynique, égoïste, et il reste encore des miettes de ce qu'il était. Paul résiste, Paul se demande, Paul plonge petit à petit dans une sourde dépression, devient quasiment mutique. Pour lui, le boulot a pris une place trop importante et il ne voit pas très bien comment il pourrait combler le vide qui semble l'aspirer. La mise en scène alterne donc des plans où il est dans l'entreprise, le lieu du combat, d'autres où il est seul et puis d'autres encore où il est en famille. Même si on ne s'expliquera pas pourquoi il en vient à prendre un pistolet pour anéantir une partie du système qui l'oppresse, le propos du réalisateur est bien d'illustrer le malaise en lien avec la valeur travail. L'argent, la finance qui écrase l'humain, alors c'est sans doute une porte ouverte, hein, mais ce film fait pourtant écho à l'actualité, d'autant qu'on est dans une banque, donc lieu dominé par le costard cravate et le tailleur, pour les femmes, touché de plein fouet par la crise des subprimes, vaut mieux dire peut-être. Les banquiers ont beau refaire inlassablement, avec leurs doigts boudiner les calculs, le compte n'y est pas. Le film exploite le filon de la crise et nous fait comprendre que même les banquiers perdent un peu pied. Mais ça n'est pas un cours d'économie en 35 mm, c'est avant tout un homme face à un monde dans lequel il a toujours baigné, un monde qu'il a façonné, dont il a été aussi le complice, et qui le rejette, et dont Paul s'éjecte un peu violemment. Voilà. Donc c'est Don Bon Matin, réalisé par Jean-Marc Moutou, réalisateur que moi j'apprécie particulièrement. Il avait fait aussi un premier court-métrage qui s'appelait Tout doit disparaître. On voyait simplement un type intérimaire qui était parti dans une mission où il devait suivre un huissier pour faire un déménagement. Voilà, enfin, c'est quelqu'un qui fait effectivement des films sociaux, bien ancrés dans la réalité, mais ça n'empêche pas aussi de mettre un souffle cinématographique. C'est au Diagonale et puis aussi au Gaumont de Bon Matin. On va faire une petite pause.
Oui, cette fois, je ne me trompe pas, ça sera bien le titre extrait de la bande originale de 28 jours plus tard, Season Song. We'll be right back. Voilà, donc c'était Season Song de 28 jours plus tard. Donc, eh bien, pour finir, dernière chronique, je vais vous parler du film, enfin du documentaire plus exactement, Crazy Horse. Alors, je tiens à préciser que pour pimenter un petit peu cette chronique, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, le film n'est pas si excitant que ça, j'ai un défi personnel. Je dois placer les mots exponentiel, raclette et palmier. Ah. Donc j'y vais, je me lance. Alors Crazy Horse, c'est le 39e film de Frédéric Wiseman, qui avait déjà réalisé des documentaires sur l'opéra de Paris et sur la comédie française. Le film entend montrer ce qui se passe dans les coulisses de cette institution mondialement connue, tout en nous laissant en profiter du spectacle, alternant les instants de répétition et de show. Malgré que je me fie une joie exponentielle de voir ce film, je dois avouer que ce documentaire, sans être mauvais, m'a beaucoup déçu malgré de très beaux moments de danse. C'est en effet là que le bas blesse, on a la sensation de ne jamais entrer dans le côté off, de ne rien obtenir de vraiment intime, comme si la caméra n'était pas parvenue à s'intégrer. Les scènes de vie entre les artistes ou les régisseurs pourraient être celles d'un bonus sur le DVD du spectacle, car tous les protagonistes ont l'air en constante représentation. Il en va malheureusement de même pour les danseuses. Elles sont interchangeables sur scène, dixit le chorégraphe lui-même, mais elles restent ainsi en privé, en raison de la distance trop grande gardée par la caméra. Les numéros filmés dans leur intégralité semblent avoir tant subjugué le réalisateur qu'il en oublie les atouts cinématographiques du montage et offre une réalisation si peu travaillée que l'on se demande quel est le sens du film. Il se sert ainsi de sa caméra comme d'un appareil à raclette, l'allumant et l'éteignant sans chercher à capter un instant de vérité. Il est évident que pour mettre en valeur le nu chic du Crazy Horse, le cinéma est un excellent outil. Pourtant, on en arrive à contempler ces numéros avec ennui et à avoir autant d'empathie pour les artistes que pour des palmiers. Celle-ci était tirée par les cheveux, je vous l'accorde. La volonté de montrer le rôle et le visage de 60 personnes travaillant pour que le spectacle puisse se faire est tout à fait légitime, mais on aurait aimé davantage de mise en scène, des plans plus travaillés, et on aurait surtout apprécié sentir que le documentaire nous montrait un aspect vivant et secret de ce lieu mythique. Au lieu de cela, l'ensemble reste froid et peu énergique, ce qui est difficilement supportable pour un film de 2h14. Donc bon, c'est pas non plus très mauvais, c'est pas forcément à recommander à tout le monde non plus, c'est un petit peu longué, mais c'est toujours visible encore pour une ou deux semaines au cinéma Diagonal.
Bon, un des avantages peut-être aussi de voir ce documentaire, c'est de voir le travail de Philippe Découfflet, hein, qui avait préparé cette revue du Crazy Horse.
Oui, oui, oui. En effet, mais c'est, lui-même est un personnage tellement excessif, on a du mal à y croire un petit peu, on ne rentre pas vraiment dans son intimité, on a du mal à le cerner. Le réalisateur ne fait peut-être pas très bien son travail à ce niveau-là.
Ah oui.
Voilà, il n'a pas cherché à pousser très loin son introspection par rapport au chorégraphe.
Mais on le voit travailler quand même ou...
Oui, oui, en effet, oui, on le voit travailler, on le voit s'interroger, on le voit discuter avec les filles et il n'en ressort pas grand-chose de naturel, malheureusement. Un peu dommage.
Et avais-tu vu les précédents documentaires de Wiseman?
Non, justement, j'en ai vu aucun.
Parce que moi...
Donc j'arrivais vraiment sans aucun a priori.
Oui, moi j'en ai vu aucun non plus, mais j'avais entendu parler donc de celui qu'il a fait sur l'Opéra de Paris. Donc il s'agissait aussi de danse, mais alors là, pour le coup, un peu moins populaire. Et les personnes avaient été carrément intéressées par justement la mise en scène, ce qu'il avait fait de ce documentaire. Après, c'est vrai que les commentaires que j'ai entendus sur ce Crazy Horse ne sont pas très bons. On parle effectivement d'une certaine lenteur, donc que tu as aussi indiqué.
C'est intéressant parce qu'on a l'impression justement qu'il fait un lien entre ces deux films-là, son film précédent sur l'Opéra de Paris et sur le Crazy Horse, puisqu'il y a une scène où on voit toutes les danseuses en fait qui sont mortes de rire devant un bêtisier en fait, où on voit des danseurs classiques se prendre vôtre sur vôtre. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un clin d'œil à lui-même, peut-être.
Alors ça, c'est projeté au Diagonal, c'est ça?
Toujours, oui. Dans la plus mauvaise salle, malheureusement.
Oh, ça,
avec le son mauvais.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et nous arrivons à la fin de ce Cinérama du 12 octobre, et voici qu'arrive l'agenda.
Oui, donc déjà pour commencer ce soir au cinéma Nestor Burma, vous pourrez assister à 20h à la projection du film Sanso de Visconti, présenté par l'association I Dilettanti.
Et demain, le cinéma Diagonale propose à 19h30 une projection débat autour du film Into Eternity de Michael Madsen avec diverses associations. Et puis, bien dans le même temps, le cinéma Utopia propose la projection à 20h du film Tchernobyl Forever de Alain Dehaeleux, suivi d'un débat avec le réseau Sortir du nucléaire. Alors ça, je me demande comment ils ont fait au niveau agenda, parce que l'Utopia est censé un peu s'arranger avec le Diagonale pour pas passer les mêmes films en même temps. Mais s'ils font des soirées spéciales nucléaires...
Ça va être la guerre, justement. Ouais.
Parce que le film Into Eternity, que j'avais déjà chroniqué ici, qui est un documentaire, là, pour le coup, plutôt bien fichu, concerne effectivement le nucléaire et l'enfouissement de déchets nucléaires en Finlande pour 400 000 ans, avec toutes les questions que ça suppose. Hein, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on l'enterre vraiment pour qu'aucun homme le trouve ? Est-ce qu'on met des indications pour dire que c'est dangereux ? Enfin, voilà. Ça pose tout un tas de questions métaphysiques et anthropologiques.
Donc faites votre choix.
Oui, entre les deux séances, oui.
Diagonale ou Utopia. Demain, toujours à Frontignan, le cinéma Cinémistral propose le ciné des copines à 20h30. Oui, ça va être génial si vous êtes entre copines. Voilà, sans vos copains, vous pouvez aller assister à la projection du film « Mais comment font les femmes ?» de Douglas McGrath. Il me semble que c'est avec Sarah Jessica Parker et ce sera quand même en présence de diverses associations.
Naturellement, féminine. Oui. C'est à toi encore.
Oh pardon. Et en revanche, vendredi, probablement beaucoup plus intéressant, l'association Ciné C'est Toi propose à 20h30 au cinéma Comodia la projection de débat autour du film L'Uomo Che Vera de Giorgio Di Ritti, et c'est à 7.
Et à Béziers, le Ciné Club Biterrois propose dans le cadre d'un week-end Jean-Claude Carrière à 20h15 au cinéma Montciné une projection du film Le Journal d'une femme de chambre de Louise Bunuel, puisqu'il en a assuré une partie du scénario. L'intégralité, d'ailleurs, peut-être.
Ce week-end, vous pourrez aller au cinéma Diagonale pour des projections de débat. Il y aura à 17h55, samedi, donc, une projection de débat autour du film Soulèvement à Sidi Ifni de Souad Guenoun, avec diverses associations, ou à 17h50, projection de débat autour du film Les Nouveaux Chiens de Garde de Yannick Kargoat et de Gilles Balbastre, en présence de Yannick Kargoat.
Et on essaiera, je dis bien on essaiera, d'avoir une interview. Et on termine avec, bien samedi encore, avec le Ciné-Club Biterrois qui est toujours dans son week-end Jean-Claude Carrière hein, et qui à 16h30 au cinéma Montciné propose le charme discret de la bourgeoisie. Hein, une fois qu'on a un premier Buñuel, pourquoi ne pas en passer un second ? Et il y aura toujours Jean-Claude Carrière qui sera présent puisqu'il viendra en voisin. Hein, il habite tout près de Béziers dans le Caroux.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendieu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, Marine, c'est ainsi que s'achève ce cinérama. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, avec un programme chargé, a priori, nous aurons un invité et nous aurons une interview de Jean-François Bourgeot pour le Cinémed qui fera son ouverture dans 10 jours.
Merci, à la semaine prochaine et bon
ciné. Prochaine.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.